Bonjour à toutes et tous, vous écoutez InfoClub Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative. Cette émission est réalisée par Radio Campus Amiens, elle est disponible sur le 87.7 FM, sur le DAB+, et sur radiocampusamiens.fr. Aujourd'hui, je suis accompagné de Colline à la technique, salut à toi.
Salut Rémi, ça va ?
Ça va et toi ?
Ça va.
Très bien, et bien on continue dans ce cas. Pour ce nouvel épisode de votre quotidienne, je vous propose un petit retour sur événement. En effet, ce week-end, nous étions en direct du forum de la création audiovisuelle organisé par l'association Bulldog. Parmi les nombreux professionnels de l'audiovisuel présents et présentes sur place, nos bénévoles Gaël et Adam ont eu la chance de rencontrer Beau Gauthier de Kermoal et Guillaume Bria, acteurs et invités d'honneur du forum. On s'écoute ça tout de suite.
Beau Gauthier de Kermoal et Guillaume Bria, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Radio Campus.
Ravi d'être là.
Pour parler de vos carrières, j'ai envie de dire, un petit peu quand même.
Voilà. International. Ah, bah,
vas-y, bah, je t'en prie, Adam.
Beau, toi, vous toi. Avez une filmo assez hétéroclite. Vous avez joué pour Cléon Ramsey dans la tour Montparnasse Infernal, mais aussi pour moi dans le Astérix de Canet. Vous avez joué aussi pour Jean-Jacques Hano et Audiard. Pourquoi ces choix assez hétéroclites finalement? Vous avez senti par instinct ou...
Non, pas du tout. Déjà, on prend ce qu'on nous propose.
Oui,
à un moment.
Bien sûr.
Non, par contre, c'est vrai que j'ai une chance extraordinaire d'avoir pu faire des films populaires et travailler avec des pointures comme Audiard et Jean-Jacques Hano. Ça, c'est quand même improbable. Et c'est vrai que non, j'ai la chance d'avoir de... Il n'y a pas vraiment de choix. Enfin, on vient vous chercher, on propose des choses. Après, vous êtes libre de refuser ou d'accepter, mais quand Audiard vient vous chercher ou Hano vient vous chercher, vous dites oui, évidemment. Quoi.
Surtout que c'était votre premier rôle chez Audiard, il me semble.
Bah, c'était la première fois, et c'était la première fois aussi. Enfin, Audiard, c'est très très particulier, c'est-à-dire qu'il commençait à monter en puissance.
Oui, c'était sur mes lèvres.
Sur mes lèvres, avec Emmanuel Dehaus et
Vincent Cassel.
Vincent Cassel, entre autres. Et c'est la première fois que je suis sur un film où je vois où toute l'équipe a envie d'être là. C'est-à-dire que les techniciens, le moindre technicien, a envie de. Enfin, on fait un Audiard.
C'est assez fou.
C'est fou. C'est, quoi. Ouais. C'est comme tu fais un Chabrol ou tu fais. Voilà, oui. Les gens qui sont là ont été choisis et ils sont ravis d'avoir été choisis. Donc ça, c'est une chance extraordinaire.
Ils ne sont pas là par hasard. Oui.
Non.
Et juste après, du coup, Audiard, vous passez chez Éric et Ramzy avec la Tempérance Infernale.
C'est improbable.
C'est improbable comme changement,
c'est
tout aussi
improbable.
Intéressant. Ouais, voilà. Et vous jouez Ming, du coup, dedans.
Je fais deux rôles. Je fais Ming et Tran.
Pardon, oui, c'est vrai.
Je fais des jumeaux,
c'est vrai.
Ouais.
Des jumeaux, oui, c'est vrai.
Oui,
ça, ce sont des jumeaux. Oui, voilà.
Ouais.
Voilà. Et il y a Marina Foïs qui vous surnomme Mireille Mathieu aussi.
Exactement.
Ouais. Ça m'a marqué.
C'est improbable. Et je recroise Ramzy sur le Astérix de Guillaume.
Oui, bah évidemment, en plus, bah oui. Du coup, il y a une petite familiarité qui se crée, du coup.
Oui, oui, oui. Bah oui, parce que de toute façon, ils sont comme dans les interviews, ils sont complètement cinglés. Donc,
il y a
un côté très, très proche,
ils sont
très tactiles.
Ils sont adorables.
Ils sont cinglés, mais adorables.
Et justement, dans le rôle de Ming, notamment, il y a une scène où vous parodiez, c'est le jeu de la mort, je crois.
Le jeu de la mort, le combat de Bruce Lee contre Karim Abdul-Jabbar.
Voilà. Donc, ouais. Du coup, ça a nécessité, j'imagine, aussi un entraînement physique pour jouer ce.
Oui, alors moi, je viens des arts martiaux.
Voilà, c'est là
mais,
où je veux dire aussi.
Mais voilà, moi, je commence à te dire maintenant dans les interviews que moi, ce film-là a changé ma vie.
D'accord. Ouais.
Mais le pire film que j'ai fait, parce que ça a été un enfer ce tournage.
Ah oui, d'accord.
Ouais, ça a été un enfer avec le réalisateur qui s'appelle Charles Nemes, qui a été dépassé par les événements. En fait,
d'accord.
C'est un film qui a coûté excessivement cher à l'époque.
Oui.
Il a coûté 90 millions de francs. Et
il
avait besoin d'un souffre-douleur. Moi, je démarrais et puis j'étais candide. Et le mec m'a pourri la vie, mais comme jamais on peut pourrir quelqu'un. Donc pour moi.
D'accord.
Et j'ai gardé ça pendant très très longtemps. J'en ai parlé avec Éric et Ramzy 15 ans plus tard, un truc comme ça.
D'accord, ah oui, quand même.
Ouais, j'en ai dit. Je dis, mais voilà, vous avez changé ma vie. Et en même temps, ce film, ça a failli être le dernier parce que je voulais plus faire du cinéma.
Et ils étaient conscients de ça, eux ?
Non, ils en étaient pas.
Non,
mais pas du tout. Pas du tout.
C'est ça qui est fou, c'est qu'on.
En fait, Charles Nemes était un des réalisateurs de H.
D'accord, oui.
Donc. au départ, Eric et Ramzy voulaient absolument faire le film. Et Fechner, le producteur, a fait « Vous êtes mignon, mais ça coûte 90 millions de francs, on va pas,
une
on va pas vous laisser
de se... » Une parodie de Piège de cristal.
Donc, voilà. ils ont validé Charles Némès, qui était le réalisateur de H. Ils savaient que, de toute façon, ça allait... c'était plus, entre guillemets, un homme de paille. Mais,
ah oui, totalement. Plus un film auquel on associe la paternité à Eric et Ramzy, en fait.
Exactement, c'est un truc de...
Même à Eric Judor, quelque part, qui depuis a fait Platane.
Et il y avait Pef, qui était conseiller artistique sur le film.
C'est vrai.
Oui, il a fait deux autres films qui n'ont pas marché derrière, mais c'est... Tu sais, c'est l'ancienne génération, c'est l'ancienne garde. Tu vois, il faisait partie de l'équipe de réalisateurs de Christian Fechner, les Charlot, les Bronzés. Voilà, c'est un catalogue énorme. Hein.
C'est les rois de la comédie française à l'époque.
Ouais, exactement.
Hein, littéralement, oui.
Non, mais c'est, en même temps, tu vois, je te dis ça sur Charles Némès. Je te parle d'humain. Moi, à côté de ça, j'ai lu son livre Pourquoi les coiffeurs. Le mec est brillantissime. C'est vraiment, il est loin d'être con. Humainement, il est à chier, quoi.
Oui, mais ça arrive.
Et en fait, quand tu fais un film, t'as 31 jours. Du tournage et t'as un mec qui te dit tous les matins t'es le pire comédien que j'ai rencontré et tu tourneras plus jamais.
Wow.
Je me suis permis de lui dire quand même que depuis qu'il m'avait grillé, j'avais quand même pu tourner avec Audiard et Jean-Jacques Hano, donc je voulais qu'il continue à me griller.
Bah mais parce que du coup,
je travaille avec des réals.
Parce que Audiard, c'était après, du coup, finalement.
Ouais, ça a été.
D'accord.
J'étais en plein tournage sur le film d'Eric et Ramzy, qui se passait très très mal. Et je sais pas, il m'a pris en grippe et moi, c'était le premier gros film que je faisais. Oui. J'étais émerveillé par le truc. J'avais une trentaine d'années.
C'est un vrai rôle. Quoi.
C'est un vrai rôle.
Un vrai truc à défendre, quoi.
Et le mec, il te dit quand même, il fait ouais, mais t'as 30 jours de tournage. Je vais pas pouvoir couper au montage, mais sache que t'es mauvais. Et moi, je partais en pleurs. Hein.
Et
moi j'avais, alors je remercie l'équipe maquillage de me consoler à chaque fois que je partais. Et je passe des essais pour se souvenir des jolies choses de Zabou Breitman. Super belle rencontre. Le casting, c'est raconter une histoire drôle qu'elle connaissait déjà. J'ai réussi à la faire rire. Elle me dit bah c'est super, c'est toi. Je suis ravi de t'accueillir dans l'aventure. Et je dis, oui, mais moi, je suis en tournage sur la tombe Montparnasse Infernale. Ouais, mais t'inquiète, on a le même agent avec Eric et Ramzy. C'est juste une histoire de prod. Voilà. Et il y avait un jour qui coinçait. Et ce jour-là, je me mets en tenue. Ils me mettent une perruque. La perruque, c'était un enfer. J'avais 52 épingles. C'était ni fait ni à refaire. Ça m'a arraché la tête. Oh. Je suis en tenue et je suis sur un banc toute la journée. Je me souviendrai toujours de cette journée. Hein. Et Némès vient me voir à la fin de la journée. Il fait « Putain, c'est con. T'aurais pu faire le film de Zabou. » Et en fait, j'ai pas tourné de la journée. Voilà. Donc, ça te...
Ouais, voilà.
Tu vois, j'ai 55 piges...
Ça s'appelle un sadique.
J'ai 55 piges maintenant. Je l'ai digéré, tu vois.
Mais sur le coup, c'est assez terrible, ouais.
Et puis que j'en ai plus rien à faire. C'est-à-dire que, voilà, à un moment...
Mais c'est quand même un rôle culte aujourd'hui.
Mais c'est devenu... C'est ça qui est paradoxal. Et pour moi, c'est ça, la dichotomie, c'est vraiment ça. C'est qu'il y a un décalage entre ce que ça m'a apporté très clairement en film populaire et en reconnaissance. C'est 20 ans plus tard que les gens me reconnaissent, je trouve ça hallucinant, mais j'ai pas savouré comme j'aurais pu le savourer. J'ai même pas été invité à l'avant-première. C'est un copain qui était invité à l'avant-première qui m'a invité.
Et pourquoi?
Parce que j'étais en guerre avec eux.
C'est fou quand même.
C'est un crime de lèse-majesté. Donc voilà. Ben alors ça, je vous donne le côté.
Oui.
Et je commence. Je te dis, je commence 20 ans plus tard à en parler, quoi. Tu vois, j'ai fait une émission avec une radio marseillaise là il y a pas très longtemps. Alors effectivement, il y a le phénomène.
Ça psychanalyse maintenant. En fait.
Non, mais il y a le phénomène MeToo, effectivement.
Mais c'est ça. Mais je pense que ça a décanté quelque chose. Hein,
oui. Et je pense que la violence, elle est aussi psychologique, verbale, morale. Voilà.
Bah, donc il y a
l'agressivité, vous savez, l'agressivité passive.
Ah oui, bah, je connais. Bien,
qui,
oui,
qui est redoutable.
Dans le milieu de la critique, j'ai vécu ça, donc vous inquiétez pas.
Donc c'est un enfer. C'est bien, mais voilà, le petit mais qui te tue derrière.
Ah oui, mais je
c'est bien,
ça.
Mais
voilà. Et donc
on
c'est pour ça que moi j'ai commencé le film d'Audiard. J'étais en angoisse totale. Je me suis dit,
bah oui,
mais ça va pas le faire. Et là, d'un coup. Et c'est pour ça que.
Et là, c'était bienveillant.
Ouais. Et ce qui m'a réconcilié étrangement avec avec l'audiovisuel. Hein, je suis pas... c'est Kaamelott, c'est la rencontre avec Alexandre Astier qui est d'une bienveillance extraordinaire. Ou pareil, je fais 3 épisodes sur les 478 et j'ai un succès populaire. Et j'ai voilà. Et là, il y a de la bienveillance. Il y a aucune voilà. Et Alex, c'est ce genre de mec qui est capable de s'arrêter et, en moto et te et faire arrêter le mototaxi pour te dire bonjour. Excusez-moi,
non, il n'y a pas de souci, non. Au contraire, c'est passionnant. C'est passionnant.
Bah, vu que on parlait de Kaamelott, hein,
on va rebondir sur
Kaamelott. C'est parfait. Une petite question sur Kaamelott, évidemment, mais. En fait, il paraît qu'Alessandre Astier écrit ses scènes la veille. Et du coup, comment ça se passe pour interpréter tout ça
Il les donne aux acteurs le jour J, apparemment.
Ouais, voilà,
c'est très facile parce que comme j'ai une mémoire de poisson rouge, c'est vraiment une angoisse. Donc, effectivement, qu'il fasse ça sur du texte, pour moi, ça aurait été une vraie angoisse. Mais comme moi, mon texte le plus long, c'est. J'y allais les mains dans les poches, assez serein.
Ça va.
Et je travaillais dans ma loge le.
Bah oui, non, pareil, oui, effectivement. Alors moi, bizarrement, j'ai pas beaucoup de texte non plus. Un peu plus que Beau, mais pas beaucoup. Et bizarrement, j'ai toujours le texte 2-3 semaines en amont, quoi.
Ah, d'accord. Okay.
Donc peut-être parce qu'il se disait qu'il n'y a pas grand-chose à réécrire sur ce personnage, donc on lui envoie le texte, c'est fait. Mais c'est vrai, je pense que c'est ça. Plus les personnages ont du texte, plus il a la possibilité de réécrire en disant « Ah non, je vais mettre une virgule là, je vais mettre ce mot-là, non, cette expression, je vais la changer. » Donc effectivement, des fois, tu as le texte la veille, et puis le lendemain matin, t'as un autre truc, quoi. Donc, sur le film, vraiment, c'était assez fou. C'est qu'on avait le texte, là, pour le coup, le matin. Alors, moi, je m'inquiétais pas trop, mais tu l'as le matin, tu reçois un premier mail avec un PDF, et puis t'as une sorte de deuxième mail qui arrive avec le code pour ouvrir le PDF du premier mail. Enfin, tu vois le truc. Donc, enfin, tu vois ta partition, sauf que t'as intérêt à te lever à 5h du matin. Si t'as, alors, moi, j'ai jamais, encore une fois, beaucoup de texte, mais pour savoir quelle est ta partition. Et quand tu vois des Perceval qui ont des règles du jeu longs comme un bras, faut apprendre ça, tu vois. Donc t'apprends ça en te faisant maquiller, tac tac tac. Enfin, moi effectivement, je suis comme Beau, on est un peu mauvais en grosse mémoire. On n'a pas un gros disque dur, nous.
Donc, on a une mémoire photographique.
Voilà. Donc je sais me repérer dans une grande ville, mais sur un texte, voilà, c'est du travail, quoi. Enfin,
mais Nicolas Gabian, qui joue le rôle de Bohort, qui fait partie de notre trio, enfin on est dans la vraie vie. Enfin, la particularité de Kaamelott, c'est qu'on est potes pour la plupart, enfin ceux qui se connaissent, en tout cas on est potes. Et il me disait, c'est un enfer. Il venait d'apprendre un monologue et d'un coup, bam, tout changeait, quoi.
Alors, c'est un enfer et en même temps, évidemment, Alexandre, il sait que c'est difficile. Donc, quand il est face à vous et vous êtes. Non, ça y est, je ne sais plus. Ben, on refait. Moi, je me rappelle sur
le spectateur
film,
est bienveillant.
Il y avait un gars qui avait un texte, je ne dirais pas qui. Non, mais bon, il balbutiait, il se trompait de mots. Bon, on reprend, la caméra continue à tourner. Non, c'est pas ça, tu le refais. Et très, très. Alors, ça n'a rien à voir avec la première aventure de Beau où le mec, il t'engueule.
C'est pour ça que c'est très facile de casser quelqu'un. Tu joues ta réplique, tu ris. Si le mec il dit c'est pas grave, on y va, c'est cool, oui, machin, oui. Temps, voilà.
On a le
et
temps,
si t'as le mec il dit putain, les 10 prochaines vont être comme ça. Déjà, ça te met, donc ça suppose qu'il va y en avoir 10 autres, que tu vas en chier, et c'est tellement facile. C'est vraiment. En plus.
C'est
clairement de l'abus de pouvoir parce que
tu
as toute une équipe derrière.
Pas du tout
un face to face avec le Real. Tu as les techniciens qui sont là et qui sont mal à l'aise aussi de la situation. Et qui se disent waouh, c'est chaud quand même. Et toi, tu bégayes dans ces cas-là.
Ah oui. Et du coup, il y a toujours eu ce truc de. Tous ceux qui ont travaillé avec Alexandre Astier disent que c'est un grand directeur d'acteur, apparemment. Enfin, en tout cas, bienveillant, comme vous dites aussi.
C'est un musicien avant. Donc,
il a
une musicalité.
Ah oui.
Et il a cette particularité-là qu'à Audiard aussi. Audiard, il montait des clips. Il travaille en musique, Jacques Audiard. Donc, il y a toujours de la musique sur ses plateaux. Il travaille en rythme. Et il a une rythmique dans la tête. Donc, c'est une partition. C'est vraiment. Et il y a une musicalité. Et je pense que la force de Kaamelott, c'est que c'est une série qui se regarde, mais c'est aussi une série qui s'écoute.
Oui,
et la pérennité de ça, c'est vraiment que les gens l'ont en fond, ne la regardent pas spécialement, mais soit l'ont en audio, soit l'ont en DVD sur la télé, ils font autre chose. Mais voilà, c'est devenu un langage. Oui, c'est devenu un vrai.
C'est vraiment
un langage
poétique qui s'articule, parce qu'on retient les dialogues beaucoup.
Tout à fait, oui.
Et sur le film, du coup...
Alors là, c'est Guillaume.
Du coup, Guillaume...
un peu.
Est-ce que, justement, il y a une différence entre le Astier qui dirige sur la série et le Astier qui dirige sur le film, notamment par l'ampleur du projet, peut-être, éventuellement.
Ouais, j'ai toujours le même mot. J'ai dit ça hier aussi. Je parle toujours d'envergure, mais c'est ça. C'est quand t'es dans un studio, bah, t'es comme ça, t'as quatre pièces, t'as la cuisine de Kaamelott dans un studio de cinéma, donc vous connaissez. Donc t'as plusieurs pièces, plusieurs décors, et tu vas pratiquement jamais à l'extérieur, et tu as éventuellement, je monte du doigt là, un fond vert, quoi, comme un fond vert, et puis voilà, éventuellement. Oui. Là, tu es à l'extérieur, donc moi par exemple, j'ai une scène, là, la scène où je suis sur la tour, bah, j'ai Alexandre Astier, je suis sur une vraie tour qui fait quand même quelques dizaines de mètres, je vois Saint-Étienne au loin, voilà, très très loin, il fait froid, on est tous comme ça, on a tous des polaires, des t-shirts polaires, et puis il crie en bas, vas-y, vas-y, et il dit, bah, regarde, regarde, et on lui demande, mais qu'est-ce qu'on regarde ? Et il nous dit pas ce qu'on regarde. Alors, c'est encore autre chose. Mais attendez, c'est quand même un des seuls metteurs en scène qui vous dit pas qu'est-ce qui. T'as une partition, donc t'as
parce
un texte.
Il a tout en tête, en fait. Oui.
Non, mais surtout, il te dit pas qu'est-ce que tu dois faire. Enfin, il te dit qu'est-ce que tu dois faire, mais pas, il dit pas vraiment pourquoi, quoi. Alors, tu finis par comprendre pourquoi, devant t'es qui, mais t'as pas Kaamelott devant toi. Moi, quand je joue la scène, on m'a pas dit, ou alors là, il y a Kaamelott, tu vas bombarder. Je ne le sais pas. Et c'est quand même complet. Et on s'en fout finalement, parce que la scène, elle est là, elle fonctionne. On n'a pas besoin que Guillaume Briat comprenne ce qu'il est en train de faire. Tu vois. Mais c'est exactement ça. Mais en fait, je crois qu'Alexandre, il prend pas du tout les comédiens pour des débiles, bien sûr. Mais justement, ils veulent pas qu'ils rentrent dans une psychologie en disant, ah ouais, moi, je sais ce que je comprends, ce que. Alors, je vais jouer comme ça. Effectivement, ça déforme des fois. Ça déforme des comédiens qui disent, ouais, non, mais moi, je suis plus intelligent que le rôle. Bah, moi, je suis peut-être plus intelligent que le rôle. Je crois que je suis peut-être un peu plus intelligent que le roi Burgonde. Non, mais voilà. Donc voilà, ce qui change, c'est l'envergure. C'est qu'évidemment, quand tu joues dans un décor naturel et quand tu joues dans un studio, eh ben, la première scène ou la scène qu'on a fait ensemble, c'est dans un truc comme ça. Et tu as 3-4 caméras. Tu as une caméra sur celui qui parle en principal. Tu as une caméra large qui prend tout le monde.
Donc,
et puis tu as une troisième caméra éventuellement qui va prendre le deuxième interlocuteur le plus important. Et puis, tac, on y va.
Les spectateurs du
truc,
surtout,
c'est... tu ne sais rien.
D'accord,
quand je dis tu sais rien, c'est que tu n'as pas répété. C'est pas comme au théâtre ou au cinéma. Tu as un peu le temps de répéter. Mais maintenant, là, on ne répétait pas. On faisait des prises pour s'exercer, mais ce n'était pas vraiment une vraie répétition. Quoi.
Bah, quand je rencontre Lan Truong pour faire la scène du Fléau de Dieu, c'est là où c'est culotté. C'est-à-dire que là, il y a la magie qui opère. On devient potes vraiment tous les deux. On
ne
se connaissait pas, moi, avant de tourner avec lui. Et puis, je n'ai pas d'indication. Moi, je suis un figurant de luxe. Sur le papier, je suis un figurant de luxe. Et en fait, je le vois jouer, donc je suis en même temps spectateur de ce que fait Lan, et en même temps, je me cale sur lui. Et quand il gueule, il se passe un truc. Bon, alors, il y a ce jeu de mots génial d'Alex, ils sont combien les uns, ils sont deux, et c'est vrai qu'on est, on représente. Et dans ma tête, je suis vraiment dans cette logique-là, on représente une armée de barbares, même si on n'est que deux tocards, on est une armée dans ma tête, on est nombreux.
Et du coup, il laisse une grande part à l'improvisation ou pas parce que c'est très écrit.
En fait, l'improvisation, elle est pas du tout dans le texte, mais elle est dans l'interprétation.
Dans le non-verbal,
dans l'interprétation. Ouais. Sauf si tu tombes vraiment sur un metteur en scène qui dit non, je voudrais que tu dises cette phrase avec ce rythme-là et dans ces conditions. Non, répète-le. Je voudrais que tu dises cette phrase. Non, là, un petit peu plus haut. Là, c'est plus une improvisation tonale. Enfin, je sais pas comment dire. Mais en fait, le texte, il est là. Moi, mes pour parler concrètement, mes pays ils sont à la virgule, mes ro ils sont à la virgule. Donc quand je découvre quand je passe le casting, c'est très précis en fait. Alors quand je passe le casting, c'est moins précis parce qu'on m'a pas envoyé le texte la veille pour que je l'apprenne. Genre sinon il va peut-être pas venir le comédien.
Non mais je départ, quand c'est pas ça commence, mais c'est pas du tout
sais
ce
pas,
que c'est
tu sais pas ouais. Donc c'est très ce qui est improvisé vraiment c'est pas pour faire une phrase, c'est vraiment le jeu. Et c'est ça qui est génial avec Alexandre Astier, c'est que tu lui proposes un truc qui est la première prise et là tout de suite il va te dire ou pas, il va dire bah on va la refaire là. Comme il dit, c'est un mec très très sympathique avec les comédiens et qui a une oreille bionique. Il dit bah, c'est bien, mais on la refait. Alors, s'il te dit 5 fois de la refaire, c'est que tu peux commencer à te dire là, c'est peut-être vraiment mauvais ou je suis à côté de la plaque. On a un peu d'expérience, on sent aussi un moment quand on est à côté de la plaque. Et par contre, des fois, tu fais des trucs, tu te sens vraiment nul, ben finalement ça passe. Moi quand je chante Om Posso Volo, la chanson à la volette, il me dit, je sais que ce truc va arriver, il me dit, bah, Guillaume, tu chantes maintenant. Il ne me l'avait pas dit ça au départ, ce n'était pas écrit sur un papier. Il me dit, Guillaume, maintenant tu vas chanter, tu vois le morceau à la volette. Oui, oui, je vois très bien, Alexandre. Alors, bon, j'ai une bonne oreille. Eh bien, tu me la chantes en burgonde. Je dis, hein? Mais on est là, on est comme ça, là. On est tous autour de la table. Mais comment ça? Mais je ne parle pas de burgonde. Allez, on y va. Et c'est un peu genre, allez, on y va, action. Ah bon, et là, tu prends ton courage à deux mains et tu fais un grommelot, mais c'est, et tu te sens nul. Et en fait, c'est pas toi, c'est jamais à toi de juger ce que tu fais, ce que tu vois pas, ce que tu ressens. Oui. La honte éventuellement, ou le trouble, tu ressens un certain trouble. Mais en fait, c'est lui qui dit, bah, c'est bien. Et effectivement, ce qu'il chante, c'est mauvais, c'est pas dans. Mais ça fonctionne, quoi.
C'est génial, tu vois. Et puis.
C'est lui le juge.
Moi, que ça soit Audiard, que ça soit Anno, que ça soit Alexandre Assier, c'est vraiment. C'est ça, ils sont spectateurs et ils regardent et ils décortiquent tout. Et quand ils sentent qu'il y a un petit truc qui se passe, il y a cette gourmandise, tu vois, dans le regard.
C'est pas là qui va te couper. Allez-y, quoi.
Et moi, je l'ai vu. J'ai vu son regard qui fétillait. Et avec l'âme, on se marrait vraiment. Et c'est une anecdote que j'avais racontée à Alex il n'y a pas très longtemps, où je lui ai dit, la particularité de l'âme triangle, c'est qu'un jour, il me fait... tu sais, bon... Nous, on a la chance, c'est on n'a pas d'accent. Je dis oui, c'est vrai, c'est pas con. C'est vrai que c'est un plus quand même et que ça permet de voilà. Et voilà. Et je pense que ce qu'il sait faire Alex, sa grande qualité, c'est ça,
c'est réunir des gens improbables. Ouais. Oui. Non, mais en fait, c'est ça. C'est vrai que c'est important. C'est là son grand talent. C'est finalement avant même de diriger les gens, parce que finalement, il dirige pas vraiment les gens. Non. Il est là, il est au diapason de ce que tu fais. Il te dit plus moins. Mais en fait, c'est le casting, c'est le choix des gens. Regarde, il s'entoure déjà. Il a pas besoin d'une star pour jouer Léo Dagan. Il prend son père, sa mère, et qui sont c'est des Ferrari. C'est des Ferrari.
Des comédiens de renom.
Mais ouais, il dit, mais non, moi je prends mon équipe. Voilà. Ça, c'est sa force aussi. Et c'est sa grande générosité. C'est-à-dire qu'il aurait pu lâcher. Il y en a plus d'un qui aurait lâché. Je dis, non, mais moi, Kaamelott, c'est avec mes acteurs où ça se fait pas. Donc ça, c'est quand même pour lui.
C'est marrant d'ailleurs, parce que c'est injuste, parce qu'à un moment, les fans peut-être, ou d'autres, je sais pas, mais surtout les fans lui reprochaient de prendre des stars après Clavier, des gens comme ça.
Chabat.
Mais quand
Chabat,
sauf que Chabat et Clavier, c'est des Ferrari aussi.
Bah, oui.
Et c'est des mecs qui sont ravis d'être là parce qu'ils vont se faire justement diriger. Ils vont pas, on va pas leur dire, tu fais ton numéro, Christian Clavier, tu fais, ah ok, non, pour la énième fois, non, tu fais ton boulot. Et il est super dans ce rôle-là. Et Chabat est génial. Moi, j'ai revu une scène ce matin là sur Facebook, là, quand ils arrivent. Ils sont avec, comment elle s'appelle sa femme.
Géraldine Nakache.
Ah, mais elle est sensationnelle.
Oui, oui, oui.
Non, mais là, on a le duc. On a l'air vraiment nul tous les trois.
Il m'a traité de pute quand même.
Ah, oui,
il
a la mise en film. Ils sont géniaux. Ils sont géniaux, quoi.
Pour le coup, ouais.
Et là, c'est le choix. Parce que ces gens-là, tu ne les diriges pas vraiment. Ils sont déjà. Il faut juste savoir où on va, dans quelle direction on va. Mais ils sont déjà très justes, quoi.
Je pense que c'est la particularité du métier de comédien. C'est qu'avant d'être qui que ce soit, on est des illustres inconnus qui s'essayent à des trucs. Et après, il y a une loterie, il y a un facteur chance qui fait que ça va marcher. Tu ne sais pas pourquoi. Mais au départ, Alexandre, personne, on ne savait pas du tout qui était Alexandre. Donc moi, quand j'ai commencé, je ne savais pas qui c'était. Ils démarraient ce truc-là. Ils ont commencé en plus la série dans des conditions qui n'étaient pas terribles parce que M6 n'y croyait pas trop.
C'est venu après, par la suite.
Et après, ils ont eu des. Et quand ça a commencé à vraiment prendre, Alex s'est dit on arrête les conneries, on va tourner à Lyon, on a des familles, donc on va tourner à Lyon. Mais au départ, ils tournaient dans des conditions, mais merdiques, vraiment. Hein.
Et du coup, il y a eu aussi les deux Astérix du coup en animation qu'a fait Alexandre Assier. Et vous, du coup, vous êtes la voix d'Obélix actuellement. Vous êtes la voix officielle d'Obélix.
Alors, je ne suis plus malheureusement. Mais là, alors, c'est pareil. C'est le choix d'Alexandre est complètement, j'allais dire, improbable. Ouais. J'étais ravi d'être l'improbable, mais il m'a choisi parce qu'il me connaissait et qu'il savait que je pouvais transformer ma voix. Mais donc voilà, j'ai été choisi parce qu'il m'a. Alors, j'ai été choisi. On a fait une audition au long cours.
Oui.
Mais en fait. N'importe quel autre metteur en scène, il aurait pris le dernier Obélix. Alors, en l'occurrence, le dernier Obélix avant moi, c'était Jacques Franck qui était décédé quelques mois avant. Et donc voilà, il fallait un nouvel Obélix. mais là aussi, il m'a moi, j'avais jamais fait ça de ma vie.
Oui, et vous avez essayé une grande part, encore une fois, de liberté.
Coup, il dit, voilà, Guillaume, est-ce que... Puis il vous appelle en disant, est-ce que t'intéresserait de faire Obélix ? Non, non, pas du tout. Je travaille, j'ai un autre boulot, j'en ai rien à faire.
J'ai piscine.
Donc, et ça fait peur. Mais vraiment, vous raccrochez. Mais Obélix, c'est pas le mec que je connais depuis 50 ans, que je lis dans mon lit avec les BD, tout ça. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Et ben, il vous met dans une ambiance de confiance, d'essayer, de voilà.
Il a ce pouvoir-là aussi, de pouvoir imposer son Obélix.
C'est ça qui est fou.
Donc, chaque réalisateur, que ce soit en animation ou en prise réelle, vient avec son équipe. Moi, j'étais à 10 000 lieues de penser que je pourrais avoir la chance de faire Je l'ai fait pour mon fils, et c'est magique. Et ça a été un tournage de dingue, parce qu'il y avait M, entre autres, je racontais.
Oui, c'est vrai. Oui.
Il y a eu un concert de M dans un village gaulois, c'est improbable. Ils ont fait un bœuf avec Big Flo et Oli, et c'était dans un village gaulois. Et il y a une énergie de dingue. Et M est d'une bienveillance et d'une gentillesse, mais tellement, tellement rare et précieuse que voilà, ça a été incroyable. Normal, oui.
Et du coup, éventuellement, est-ce qu'il y a des prochains projets ? On vous verra dans le deuxième volet ou pas, éventuellement, Beau ? Du coup.
Dans le deuxième.
Tu comprends pas très bien ce langage. T'es très mystérieux comme langage.
Dans le deuxième, on peut rien dire.
Ah, vous pouvez
quand
rien
on
dire,
y était, on pouvait rien dire. Quand on y était, je répète la même phrase.
Vous pouvez rien
non,
dire.
On peut, on est, non, là, on n'a aucune clause de confidentialité. Ah. Mais
on joue le jeu, on n'a pas.
On joue le jeu
évidemment.
Du patron.
Mais on vous retrouve quelque part prochainement, quand même, dans vos projets.
Pas trop. Là, je suis un peu en jachère.
Ouais.
Je suis un champ en jachère. J'attends les prochains projets. Voilà. Il y a des choses. Il y a un court-métrage en vue pour moi avec un copain commun.
D'accord.
Voilà, ça se fait tout doucement.
Moi, je suis en train de roder mon spectacle.
Okay.
Qui s'appelle C'est beau la vie.
Super.
Comment devenir un immigré bobo, on dit le son. Et je vais être en tournage là sur un film de Fred Sorel qui s'appelle Pils, par ici la sortie, qui est tiré d'un documentaire et on fictionne des séquences. Donc ça, je tourne au mois de janvier. Voilà. Et j'avais un western qui s'est arrêté, qui aurait dû partir on aurait dû être en Espagne, mais pour X raisons. Le film s'est arrêté.
Des raisons de production.
Des raisons de production, voilà.
Des choses qui s'annulent, quoi. Ça existe.
On touche du bois. C'est un rêve de pouvoir faire un western. Donc, on espère que l'aventure va reprendre.
Bah, en tout cas, merci à vous.
Bah, merci à vous.
Pour votre générosité. Merci beaucoup. Ça a été un vrai plaisir, en tout cas.
Je remercie Gaël et Adam pour cette super interview. Je remercie également Guillaume Bria et Beaugautier de Kermoal d'avoir répondu à nos questions. Par ailleurs, si vous souhaitez revivre le forum de la création audiovisuelle qui a eu lieu samedi dernier à la Maison de la Culture d'Amiens, sachez que le podcast est déjà disponible sur notre site radiocampusamiens.fr. Côté actu, j'ai repéré une info qui pourrait vous intéresser. Le vernissage de l'exposition Par la Racine, lier les mémoires vivantes se tiendra vendredi 13 décembre à 18h à la galerie Totem, qui se trouve au 40 places rue Notre-Dame à Amiens. Cette création collective inspirée par l'ouvrage La colonisation du savoir, une histoire des plantes médicinales du Nouveau Monde de l'historien Samir Boumediene explore les liens entre plantes médicinales, mémoire coloniale et transmission des savoirs. Elle réunit des œuvres d'étudiants en art plastique de l'UPJV et des mises en dialogue avec deux créations de l'artiste Jochen Gerner prêtées par le FRAC Picardie Hauts-de-France. L'exposition examine comment les savoirs liés aux plantes ont été appropriés, transformés ou détruits au fil du temps. Elle questionne aussi la mémoire et la reconstruction face à l'oubli. Après ce vernissage, vous pourrez la voir gratuitement jusqu'au 18 janvier à la galerie Totem. C'est tout pour moi côté actu. Info Club Sandwich, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte en musique avec le titre Squabble Up de Kendrick Lamar, issu de son dernier album GNX. Juste après cette conclusion musicale, retrouvez le 6e épisode de notre série Oh les filles. Cette semaine, on s'interroge sur la place des femmes dans l'industrie musicale. Ce programme est réalisé par la Fédération des radios associatives du Nord de la France. À bientôt et à très vite sur les ondes de Radio Campus Amiens. Au revoir.
God knows. I am.
Reincarnated, I'm a stargazing. Life goes on, I need all my babies.
Woke up looking for the broccoli. High key, keep a horn on me, that Kamasi. IP, ownership, the blueprint is by me. Mr. Get Off, I get off at my feet.
Music. couldn't try me in a tri-state. Buddy pass, but I get him splashed till he hydrated. Bounce out, no he spook town, eyes dilated. I got the money and the power, both gyrating. I feel good, get the f*** out my thighs. Look good, but she don't got no ties. I walk in, walk out with the size. Man, don't let me know what the price. What the f***? I got hits, I got bucks, I got new paper cuts, I got friends, I got foes, but they all sitting ducks. Hit his turf and get cracking, double back like a deluxe. 50 deep, but it ain't deep enough. Complete, there you go, beat him up. Falling from a money tree, and it grow throughout the month. Spit a loop, yeah, the camera speed off, yeah, it's us. I feel good, get the f*** out my thighs. Look good, but she don't got no ties. I walk in, walk out with the size. Man, don't let me know what the price. Squabble up, squabble up. Squabble up, squabble up, squabble up, squabble up, squabble up, squabble up.
Hold up, where are you from? Vibe, I'm finna go dumb. Sideways, bump skunk. Fever, I'm on one.
Thunk, 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 baby rockin' it. Quid pro quo, what you want, cause I'm watching it. Broke on the flow, let me know if you clocking it. Brody won't go, but I know that he popping it. It was worth tickets on sale till I silenced it. Pipe down, young, these some hoe with the politics. With him and some in him, that's a lot of. Don't hit him, he got kids with him, my apologies. Ghetto child, here was Blackie Miles with the smearing off. He high, we outside, boy, they about to kill him off. Blaps on blaps, it's a fact, this a breaker off. Tell me why the you rap, if it's fictional. Tell me why the you fed, if you criminal. Hey, Dot, can I get a drop? I'm like, nah. Hey, boom, coon, from the west side to Senegal. It's a full moon, let the wolves out, I've been a dog. I feel good, get the f*** out my thighs. Look good, but she don't got no ties. I walk in, walk out with the size. Man, don't let me know what the price. Squabble up, 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 squabble up.